Voir les bronzés, c'est soutenir Christian Clavier. Voir les bronzés, c'est un peu adhérer à l'UMP. Allez-y, vous voterez bientôt Sarkozy. En Paul les bronzés, en Paul.
Alors, c'est un message pour les 2 millions de chargés de recherche à la NPE. Bon, c'est plus joli que chômeur, dont je fais partie malheureusement. Alors, j'ai monté un canular avec Tommy, mon bébé de 15 mois. Je lui ai fait un curriculum vitae avec sa photo, c'est important de le signaler. À 3 mois, il a eu le bac. À 6 mois, un BTS de tourisme. Et à 7 mois, il a trouvé un boulot dans une agence de voyage. Alors, j'ai envoyé ce CV à de grosses sociétés. Et devinez ce que j'ai reçu, des réponses formatées, ou plutôt des mensonges formatés, du genre « Nous avons étudié avec attention votre candidature, mais nous n'avons pas de poste actuellement disponible. » Bon, je vous passe les autres réponses. Mais c'est quand même des réponses émanant du Club Med, de France Télécom, de Louis Vuitton, entre autres, voilà. C'est dur, hein. C'est dur pour les 2 millions de chargés de recherche à la NPE. Car, fort de constater que... Les candidatures spontanées finissent toutes à la poubelle. Alors, un conseil, arrêtez de dépenser des timbres inutilement. Et si vraiment vous y croyez encore, surtout n'écrivez pas les coordonnées derrière la lettre et vous aurez peut-être une chance d'être lu. Voilà, si vous voulez lire le CV de Tommy et les réponses qu'il a reçues, c'est sur son site. Alors, www.tommybayard.com, T-O-2-M-Y, Bayard, B-A-Y-A-R. Au revoir.
La loi du 3 janvier 91 interdit la pratique des loisirs motorisés dans les espaces naturels. C'est-à-dire que les quads, les 4x4 et les motos n'ont rien à faire sur les sentiers et même sur les pistes forestières quand celles-ci ne sont pas ouvertes à la circulation. Qu'est-ce qu'on constate ? La prolifération de ces engins de merde qui puent, polluent et font du bruit dans des espaces où d'habitude on vient chercher le silence. Dans les Hautes-Alpes, le département où j'habite, nous avons non seulement Luc Alphin, le dernier vainqueur du Paris-Dakar, que le meurtre de deux enfants n'a pas empêché de savourer pleinement sa victoire, mais aussi la Croisière Blanche. C'est un rallye de 400 équipages, quad, 4x4 et moto, venant de toute l'Europe. Pendant 4 jours, ils trimballent leur cul de plomb sur les sentiers enneigés, sur les pistes de fond et même de ski, sur les itinéraires raquettes, dans le parc national des Écrins. Cette année, c'était la 29e édition, et c'est donc la 29e fois que le préfet a accordé une dérogation exceptionnelle. Au-delà de cette manifestation, c'est la promotion de ce type de loisirs qu'il faut combattre. Vous pouvez nous aider. Il y a une pétition sur Internet. Prenez vos stylos. pétition.stmedd.free.fr. Je répète, pétition.stmedd.free.fr. Sachez-le, les pratiquants de ce type de loisirs aiment la nature comme les pédophiles aiment les enfants, en la détruisant.
Allô, le répondeur de la Bastille Suisse, c'est Didier, j'habite à Gennevilliers, voilà. Alors je suis à la gare de Lyon et je vois des camions qui font de la publicité pour la banque postale. Et vous savez où les camions sont immatriculés ? Eh ben les camions sont immatriculés au Luxembourg. Je sais pas si c'est une bourde ou du cynisme, mais je trouve ça incroyable. Merci.
Je suis élève en deuxième année de classe prépa à Physique-Chimie Angers. Donc je suis fille d'ouvrier. Donc, ma prof de lettres m'a rendu une dissertation dont le thème principal était le pessimisme de Tchekhov, et donc elle nous demandait de nous exprimer sur la question ce qu'on en pensait. Donc j'ai utilisé l'expression « la lutte des classes » et elle l'a qualifiée d'idée périmée, de fait périmée. Alors que j'ai regardé autour de moi et je pense qu'il y a de plus en plus d'inégalités sociales dans la France. Et donc, pour cela, ma note a été très fortement diminuée. En effet, j'avais totalisé 8 points sur le reste de la dissertation. Donc voilà, qu'en penses-tu ? Est-ce que pour toi, c'est un délit d'opinion ? Surtout qu'en tant que prof de lettres, je pense que c'est elle qui devrait enseigner la liberté d'expression. Donc voilà, merci. Ton émission est super. Salut Daniel.
La tante d'une amie de ma mère a une nièce dont le petit copain et le fils du concierge du ministre de l'économie. Enfin, d'un proche du ministre. Eh bien, en tout cas, c'est comme ça qu'il a appris que le vrai nom du CPE, c'est en fait le contrat première embûche. Ah, y a pas à dire. Contrat première embûche, contrat nouvelle embûche, question promotion sociale, il y a de la cohérence, de l'homogénéité, et une logique de gamme digne d'une marque de bagnole au gouvernement. Allez, salut.
Alors, je suis Libertad Elio, je suis conseillère municipale à Canteleu, qui est dans l'agglomération rouennaise. Et je vous fais un petit message à propos du logement. En disant que, bon, il y a des situations tout à fait paradoxales. Alors qu'on connaît une très grande pénurie de logements, les offices d'HLM ont pour la plupart des logements vacants. Par exemple, l'office de HLM de la région rouennaise qui s'appelle Rouen Habitat a un taux de vacance de 12%. Je rappelle aussi au passage que les maires ont le droit de réquisition des logements, droit dont ils n'abusent pas. Bon, je vous embrasse, au revoir.
Bah écoute, j'ai toujours rêvé de t'appeler pour dire que ton émission était géniale et modeste, mais en même temps que l'équipe avait un sacré culot pour nous raconter tout ce que vous nous racontez. En même temps, je suis un peu désolée, j'appelle pour dire que c'est la merde en fait. Donc à Salon, il y a une section STIR appliquée avec 42 élèves qui vont rester sur le carreau parce qu'administrativement, bah, il y a des erreurs et le recteur décide de fermer cette classe. Donc bah écoute, c'est un peu un coup de gueule que je lance et puis nous, bah, on mène le combat avec nos petits moyens de petits profs et de petits élèves. Salut Daniel et continuez bien toute l'équipe. Au revoir. Pour un soutien sur un site sti.sup.fr. Merci, salut.
Voilà, soutien aux profs d'arts appliqués en tant qu'ancien élève de l'École nationale supérieure des arts appliqués. Je soutiens les profs des arts appliqués. Merci pour tous ces messages, notamment celui qui concerne le logement. On va continuer aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui est publié par la Fondation Abbé Pierre le rapport, c'est l'11e rapport publié par la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement. Il se trouve qu'en même temps, on fait avec Olivia Gesbert un reportage sur les campings. De plus en plus de Français habitent dans des campings à l'année. Ils sont entre 80 000 et 120 000. Et on les a rencontrés déjà hier à Toulouse. Et on va continuer aujourd'hui cette rencontre et, entre les choisis et les subis qui vivent dans ce camping. Auparavant, ah oui, j'ai une chose à vous dire sur les repères de la basse gestion. On a pris du retard pour vous rappeler. Beaucoup d'auditeurs nous disent, nous, on veut ouvrir un repère, on a ouvert un repère, etc. Alors, il faut qu'on se parle avant, parce que il y a des gars qui ouvrent un repère, mais c'est dans la, c'est un petit bistrot ou un petit resto, comme ça, histoire de faire la promo d'un endroit ou d'un autre, comme ça. Alors évidemment, ça peut pas coller. Il faut quand même qu'on sache à quoi ça ressemble, ces repères, et qu'on ne colle pas le noble nom de la base où j'y suis n'importe où. Donc vous nous appelez et on va vous rappeler, mais on a pris un peu de retard parce qu'il y a beaucoup de demandes, pardonnez-nous. Donc on va au camping avec Olivia à Toulouse. Auparavant, encore quelques messages au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Christine de Nîmes. Je rappelle pour prévenir tous les amis de la base où j'y suis de Nîmes que le repère se tiendra demain soir, jeudi soir, à partir de 19h au Ad Hoc Café. On vous attend nombreux. À bientôt.
Oui, bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe. C'est Katia du Café Repère de la Seine-sur-Mer. Pour dire que bah, le café, ça roule, donc c'est toujours tous les mois. Tous les premiers mercredis du mois à 18h30, le jour de la sirène. Donc mercredi, premier mercredi du mois à 18h30. Voilà.
C'est bon.
Des logements trop chers, un marché du travail en crise, pas assez de petites surfaces habitables. 9 millions de personnes seraient aujourd'hui frappées par la crise du logement en France. La Fondation Abbé Pierre vient de publier son rapport 2006.
C'était quoi la radio ?
Oui. Campi de Rupé, bonjour.
Quand on dit aux gens qu'on est dans une caravane, forcément...
Une semaine ? Ouais, ok.
Ben parce que c'est quand même pas une vie.
Il n'y a pas un jour, moi je suis là depuis le 1er avril 1996, il n'y a pas un jour où on n'a pas eu une demande de logement pour des gens qui sont en quête de logement à Toulouse. Voilà.
Salut, c'est Daniel Mermet, la baisse, j'y suis avec Olivia Gesbert, les chiens aboient, la caravane ne passe pas.
Flight number 2.
arriving from New York.
C'est un Airbus A320 qui passe au-dessus de notre tête?
Oui.
Ouais.
Non.
Même pas vrai. Donc, qui c'est qui a la trottinette la mieux de vous deux?
Bah, ma soeur. Parce qu'elle est électrique, elle a même du haut à pousser.
Ouais. Toi, tu feras quoi plus tard?
Je sais pas.
Tu travailleras dans les avions? Pompier?
Non, pompier.
Ouais. Toi, tu te souviens depuis combien de temps t'habites en caravane ou en mobilhome?
Non, mais je sais que ça fait plus de 2 mois que j'ai pas vu ma mamie.
Ah ouais?
Ouais.
Toi, ça te plaît d'être là? De vivre là? Mais toi, bof bof.
Ouais, bof bof. En fait, il n'aime pas parce qu'il se fait toujours crier dessus, alors il peut pas passer dans les emplacements, il peut pas faire le bordel. C'est pour ça.
C'est une terreur. Alors là, en face, il y a qui?
Charles. Ben, c'est un petit monsieur vieux.
Ouais.
Et à chaque fois, il promène son chien, il adore son chien. Je crois qu'il est à la retraite. Quand je suis arrivée, il était là.
Il a une moto en plus, non?
Non, c'est un monsieur à côté.
Ah ouais.
Et parce qu'il a une mobilette et tout.
Et là, à côté, en face, tu sais qui c'est?
Là? Non. Avant, il y avait des jeunes, mais là, ils sont plus.
Et alors là?
C'est un monsieur qui travaille la nuit. Et construit des routes la nuit. De la tente bleue, il n'y a personne. Celui-là, il travaille sur un bus.
Il est sympa, lui.
Ouais, il est sympa. Voilà, c'est là. Et moi, j'habite juste là.
Dans la petite caravane blanche, là?
Non, pas là. Hein.
Bon, ben, je vais voir le monsieur là. D'accord. Tu sais comment il s'appelle?
Non, aucune idée.
À tout de suite.
Du loisir à la précarité, voilà ce qui peut mieux dire ce que deviennent un certain nombre de campings en France. Du loisir à la précarité. Ici, dans ce camping du pont du Rupet, à 5 km de Toulouse, géré par l'aimable Christian Lagarde, eh bien, environ 50% des habitants de ce camping habitent là à l'année. 50%. Au total, on estime, ce n'est qu'une estimation, entre 120 et 130 000 personnes qui ainsi habitent dans ces campings à l'année. Le gamin disait une tente bleue. Oui, c'est une tente, ça peut être une tente, ou bien alors une caravane, ou bien alors un mobil-home. On nous le dit toute la journée aujourd'hui à l'occasion de la publication du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement, on vient de l'entendre. 9 millions de Français sont touchés par le mal logement et 3 millions d'eux sont des sans-abri ou vivent dans des logements insalubres, des logements surpeuplés, des cabanes, des squats, des caravanes et des campings. C'est un phénomène qui va en se développant en dépit de quelques résultats encourageants, un léger mieux dans la construction de logements sociaux et puis 400 000 logements qui ont été construits, mais c'est pas 400 000 logements pour ceux dont on vient de causer, bien évidemment. J'oublie de parler des jeunes aussi qui sont environ 1 million à vivre contraints dans leur famille parce que faute de moyens, alors que un tiers de ces jeunes travaillent mais n'ont pas des revenus suffisants pour quitter la maison familiale. Donc on voit un malaise dans le logement dans notre pays et on sait l'importance évidemment du logement dans la vie, et on peut tout à fait faire des liens entre la question du logement, du mal logement, et les violences qu'on a pu voir ces derniers mois, par exemple en France. Là, donc, on est dans ce camping. On a fait connaissance hier avec les uns et avec les autres, et on va continuer la balade aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas que du malheur. Il y a pire ailleurs dans le monde, mais le pire, c'est peut-être chez nous l'injustice. Le sentiment d'injustice, le sentiment d'inégalité qui creuse, qui va en se développant, qui va en augmentant, lui, pour de vrai, et dont on ne sait pas et dont on ne voit pas la fin. C'est jusqu'à 18h. C'est là-bas si j'y suis.
On s'aimait pas, alors on se faisait mal, en rêvant à notre cité des étoiles. Tant pis si un jour on doit tomber de haut, tant pis si tout ce qui brille est pas beau. On voulait du gâteau mais des parts entières, et le riz sans creuser la rizière. Le sable mais sans marcher dans le désert, la neige mais sans que ce soit l'hiver. On s'aimait pas, alors tout nous était égal. On nous aimait pas, alors on a fait du mal. Comment faire pour ne pas abîmer tous les ballons qu'on n'aura jamais? Car du début à la fin de la partie, on nous a refusé tous les pénaltys. Et c'est depuis le cours élémentaire, c'est depuis qu'on voudrait se la faire, la cité des étoiles, la cité des étoiles, la cité des étoiles.
Tu prends le caillou à orange là, après tu le sèches, oui, et après...
Qu'est-ce que vous faites comme travaux? Vous refaites tout l'intérieur?
Oui, l'intérieur.
Et ça c'est quoi là en plus?
Non, ça c'est une terrasse. J'ai pas trop de temps parce que je fais les éclairages là. Et comme le silicone, vous savez, il faut que ça prenne vite.
Et vous appelez comment? C'est votre prénom?
Christian.
C'est quoi vos cigarettes? C'est des Espagnols?
Ouais, espagnols. Je fumais des gitanes, mais maintenant je fume ça.
C'est moins cher.
Ouais.
Ouais. Alors vous allez habiter là maintenant à l'année, du coup.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a décidé à venir là?
Pour avoir un petit bout de jardin, un truc comme ça, tranquille.
Et avant c'était quoi?
Un appartement que j'avais, au minime. C'est dans Toulouse.
Pourquoi vous n'avez pas acheté une petite maison?
Et pour les crédits, tout ça, c'est trop cher. En ce moment, c'est cher.
Ouais. Et vous bossez encore?
Si je suis hors. Je bosse encore, mais je suis pratiquement à la pré-retraite, là. Je suis pas à la pré-retraite.
C'est quoi?
Le bâtiment.
Bâtiment? Oui. Ah, ça y est, il faut changer le... ces sacs? Ça, ça va aller où?
Des rires.
Ça, là, c'est la colle, non?
Ouais, c'est du silicone. Vous faites attention au tuyau, s'il vous plaît.
Oui, monsieur.
Ouais. Pas...
Ça va juste dans l'angle. La colle? Mais il n'y avait pas déjà tout ça sur votre mobilhome?
Il était nu. Non, parce que j'ai refait des fenêtres. J'ai tout cassé dedans. Alors, c'est sûr que je ne pouvais pas le laisser comme ça.
J'ai passé l'échelle entre le vélo et l'arbre.
La cabanisation, c'est un mot d'urbaniste, de sociologue. Ce qu'on vient de voir, pour eux, quand ils regardent ça, sur leur carnet, ils notent que cabanisation. C'est un mot un peu pesant pour dire bricolage et extension du domaine de la caravane. Et bon, ouais, ça va pas mal, quoi. Hein, c'est pas mal. C'est presque, on a envie hein, d'être là, de bricoler, de faire sa petite baraque, sa cabane à soi, bien à soi, son petit boule, machin, taillé comme ça dans le paysage, c'est sympa. C'est vrai, sans doute qu'il y a du plaisir là-dedans, indéniablement. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, indéniablement, dans cette augmentation des Françaises et des Français et de leurs enfants, on a entendu, qui vivent dans ces campings à l'année. Il n'y a rien à faire. On voit là la recrudescence de la précarité et la crise de l'immobilier qui pousse chaque année de plus en plus de gens, notamment de travailleurs pauvres, des gens qui gagnent leur vie, mais pas suffisamment pour louer un truc à peu près correct, ou évidemment encore moins d'accéder à la propriété. Et puis il y a aussi dans ces campings des accidentés de la vie, on va dire courtoisement, ceux qui en ont pris un petit coup sur le museau ou sur le cœur, des gens qui sont un petit peu plus fragiles que les autres et qui se retrouvent comme ça un peu en marge, hop, avant la rue, c'est le dernier filet. Ou bien alors, ce qu'ont observé les dits sociologues aussi, c'est ceux qui sortent de la rue et hop, qui arrivent par un miracle à donner un petit coup de rein et hop, à se retrouver dans ces habitats en attendant des jours meilleurs. Ça se croise comme ça. Ça se croise, mais enfin, la tendance générale, elle est quand même à la précarisation et aussi à la marginalisation. Rencontre avec Lucille.
Lucille ? T'es là ?
On est pour 2 secondes.
D'accord. Allez, Comme ça, on est face à face.
Lucia, la chien.
Ah, je regarde comment t'as aménagé une petite guirlande, des fleurs artificielles.
Ah, il y en a des vraies dans le voisin aussi.
Tu sais, on dirait vraiment une roulotte de... Oui, de diva. Elle est toute en bois. C'est une vieille caravane, en fait. Hein.
Elle n'est pas si jeune, ouais. Pas si jeune. Dis-moi, il y a mieux, quoi.
Moi, je fais juste un petit reportage pour savoir pourquoi les gens ont choisi de vivre en camping. S'ils ont choisi ou pas choisi, d'ailleurs. C'était ça, un peu, la question. Pour toi, c'était un choix ?
Moi, si on peut dire. Pas... Moi, j'ai pas eu trop le choix, moi, aussi.
Comment t'es arrivé là, toi ?
Ma transsexualité, qui a causé un gros problème. Parce qu'avant, je m'appelais Frédéric.
Ça a posé un problème pour trouver du logement ?
J'avais un appartement quand j'ai commencé à avoir la chienne. Et que, ça fait 2 ans que j'ai changé. Parce que c'est pas passé.
À cause de la transsexualité, ils t'ont repris l'appartement ?
Du moins, ils sont arrivés à me faire partir à cause de ça. Quoi.
T'as essayé de trouver un autre logement ?
Non, maintenant, j'ai la caravane. J'y reste pour jusqu'à juin 2008. Et après... Allez, bye.
Comment t'as décidé juin 2008 ?
Je refinis mes crédits à cette période-là. Et voilà, j'ai envie de finir de payer ça, comme ça je suis tranquille.
Tu les as engagés quand, ces crédits ? Pourquoi ?
Alors, ça a commencé il y a un an et demi, 2 ans, pour que j'ai fait refaire mon nez et ma pomme d'Adam.
Ça coûte cher, tout ça ?
Pour les 3 trucs, il faut compter 4 500 euros, en gros. Ensuite, il y a eu la caravane. Ensuite, il y a eu, j'ai failli prendre un appartement, mais ça m'a été refusé, toujours pour la même raison. Parce que je touchais ce qu'il fallait, donc il n'y avait pas de raison qu'il me soit refusé. Parce qu'il demandait 1300 euros et je fais 1900 de salaire. Donc, moi, je conduis des camions, ça paye bien.
Alors, t'es chauffeur routier, c'est vrai ? Chauffeuse routière, comme on dit.
Conductrice de camion.
T'as une photo, comment c'était avant ?
Permis, carte d'identité, ouais, peut-être. Ça, c'était il y a. C'est tous les 5 ans, en 2004. C'est pas...
Ah ouais, là, il y a le nez qui a changé.
Ça change.
Ah ouais.
J'ai un peu honte de le montrer parce qu'il y a un truc qui est marqué qui me convient pas.
Le prénom ?
Non, la définition M ou F.
Ah, M ou F. Masculin, féminin.
Parce que là, dans 6 mois, 1 an, je peux être opéré. Ça fait 1 an que je suis sous hormones. Que maintenant c'est tout prévu, j'ai tout dans ce dossier noir, hein. Les photos opératoires, tout.
C'est quoi comme opération ?
Vous voulez voir la photo ?
Non, pas du tout.
c'est C'est coupage en deux, vidé, retourné.
Mais ça fait forcément un vagin ou pas? Ouais.
Tu vois, résultat final, j'ai montré les photos à des amis. Ils sont restés baba.
Ah. Donc dans un an et quelques, t'es une vraie nénette, quoi. Quel âge, en fait?
29 ans. Ouais, ça fait 6 ans que je conduis. Et pas les petits gabarits, les semi-remorques. Ouais. C'est un truc comme ça que je conduis, là. Le rouge et bleu. Là.
Ah, il est beau, hein.
Mais sauf que le mien, il est blanc et rouge, quoi. Sinon, c'est le même.
Tu pensais qu'un jour, t'allais vivre en caravane?
Je m'en doutais.
Ah ouais,
ouais. Mais moi, je sais ce qu'on risque dans des conditions comme les miennes.
Tu savais que si un jour tu devenais une femme, ce que tu avais envie d'être, tu perdais tout, quoi.
Donc j'étais pas très surprise. Donc...
Tu crois que la vie sera mieux en femme?
Ben, elle est déjà mieux.
Ouais.
C'est clair. La machine.
Alicia, viens là.
Je suis un escargot sinistre. Je me recroque vie et manquiste et je m'ennuie. Je suis coiffeur ou secrétaire, mécanicien, bibliothécaire. J'habite la banlieue ouvrière et je m'ennuie. Je m'ennuie. Je voudrais faire autre chose de ma vie. Oh, je m'ennuie. Je voudrais savoir comment sortir d'ici. Du mauvais côté de la barrière. Depuis l'école jusqu'au cimetière, je fais ce qu'on me dit, ouais. HLM en club de vacances, sans but, sans orgueil, sans vaillance. Je ne peux que suivre la danse et faire comme si je m'ennuie. Je voudrais faire autre chose de ma vie. Oh, je m'ennuie. Je voudrais savoir comment sortir d'ici.
Alors chaque année, je le disais, vous le savez, puisque vous entendez ça depuis ce matin, aussi bien sur Inter que sur toutes les radios, sur France Info, etc., la Fondation Abbé Pierre publie son 11e rapport sur le mal-logement, et entre autres, il est question de ces campings, de ces caravanes de la misère, comme on a pu les appeler. Rencontre avec Patrick Doutreling, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
Pour certains types de populations, ça s'aggrave, évidemment, pour les défavorisés, pour les modestes. Ce qui est surprenant, c'est que maintenant, depuis 2-3 ans, les classes moyennes sont touchées par la crise du logement. C'est-à-dire que les quelques améliorations de la situation, je pense aux 400 000 logements construits en 2005, par exemple, c'est bien, c'est un des meilleurs scores depuis 25 ans. Le problème, c'est qu'on construit pas pour les classes modestes, ni encore moins les défavorisés. On construit, en gros, sur 400 000, il y a 13% qui sont accessibles à deux tiers des Français et 87% au tiers des Français les plus aisés. Donc, s'il y a un côté un petit peu désespérant, c'est que on a une bonne analyse de la situation. Il y a une reconnaissance des pouvoirs publics de la crise qu'ils ont nié pendant quelques temps. Là où c'est plus difficile, c'est qu'on prend pas les bonnes mesures pour essayer d'endiguer cette crise et d'éradiquer les problèmes les plus criants de logement. Il y a des besoins. Il manque 900 000 logements en France, donc toutes les classes sociales sont touchées. Mais on essaye de sortir par le haut. C'est-à-dire comme si on disait, peu importe qu'on conduise des produits logements chers, il y aura un effet de chaîne à un moment donné où les classes moyennes vont aller dans les logements aisés, les classes moyennes inférieures vont aller dans ceux qui viennent de se libérer, qui vont libérer eux-mêmes le logement social, etc. Mais ça marche pas du tout comme ça.
Ça marche pas, ça c'est le mensonge ultralibéral. C'est de dire quand la mer monte, tous les bateaux montent. Et c'est pas vrai, en fait. Quand la mer monte, il y a certains bateaux qui montent et la plupart coulent.
C'est très clair. C'est la fameuse main invisible d'Adam Smith en disant, le marché va réguler tout ça. De toute manière, n'ayez pas peur. Si on sort des logements trop chers et qu'il n'y a pas de personne pour les louer, les prix baisseront. Mais seulement les prix baisseront dans combien de temps? Dans 5 ans, 10 ans? Et qu'est-ce qu'on aura fait en attendant? Laisser croire que le marché va régler le problème de la crise du logement, c'est un leurre total. On a un siècle derrière nous, tout le 20e siècle, où on a montré que si on s'appuyait sur le marché était excluant. Il exclut à chaque fois les plus faibles. Au début, c'était les personnes âgées. Maintenant, c'est les jeunes, les modestes et les familles nombreuses. Ça marche comme une centrifugeuse. Ça tourne, et lâche petit à petit les plus faibles et les plus modestes. Si vous ne pouvez pas vous accrocher, si vous n'êtes pas capable de payer un loyer dans le parc privé, vous avez une petite chance dans le parc social, sinon on vous met de plus en plus loin dans des cités à 20, 30 kilomètres des villes et où on concentre tous les gens avec faibles ressources.
Justement, nous y voilà, à l'écart des villes. Nous, on s'intéresse à ces campings où, tout au long de l'année, vivent des gens en nombre croissant. Hein, c'était un petit phénomène, un peu folklorique, un peu anecdotique. Et puis, on voit que ça devient systématique, que ça s'organise, qu'il y a toutes sortes de catégories sociales qui s'installent là. Ça devient de véritables petits mondes, avec des tensions, avec des ségrégations à l'intérieur même de ces mondes-là. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que vous faites état de ça dans votre rapport?
Oui, on a travaillé dessus parce que on a vu que les premiers campings qui ont été occupés, c'est par les personnes très défavorisées qui étaient exclues du logement ou qui trouvaient pas de place. Et comme vous le dites très justement, les classes sociales se sont modifiées. Il reste encore 10 ou 20% de très défavorisés et le reste, c'est des classes moyennes qui viennent par défaut en espérant que pendant 5-6 mois, elles vont pouvoir économiser et puis attendre qu'un logement social ou un logement privé se libère. Et donc, on a dès à présent une montée en puissance de d'autres catégories de ménages, mais ne croyons pas que c'est un choix. C'est un choix par défaut, c'est un choix contraint. Ils vont là-dedans, ces campings ou dans ces caravanes, parce qu'ils n'ont pas de place dans le logement privé traditionnel qui est beaucoup trop cher. Il a augmenté de plus de 45% dans les 6 dernières années. Ils n'ont pas de place dans le logement social parce qu'il en manque. Il en manque des centaines de milliers en France. Donc, ils se rabattent sur ce qu'ils peuvent. Et au début, c'est folklore, c'est sympa. On a un petit jardin, c'est sympa. Au bout d'un moment, ce sympa, il dure et il devient vite insupportable. Et en plus, il revient cher. Contrairement à ce qu'on croit, le logement en camping revient cher. D'abord parce qu'il faut payer du chauffage extrêmement cher. C'est pas isolé. Et deuxièmement, parce que les gérants de camping, ils ont bien vu qu'il y avait une nouvelle demande et ils sont en train de faire monter les prix. Donc voilà, et ça, on a démontré que c'était une solution de repli, de reflux des personnes défavorisées. Et on a découvert depuis 2 ans que d'autres classes, y compris des salariés, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, cette génération de gens qui gagnent autour du SMIC et qui ne se rabattaient là-dessus. Parce que quand vous gagnez le SMIC, ça fait autour à peu près de 1000 euros. Vous allez dans une agence, on vous dit, faut pas dépasser 250 euros de loyer, c'est-à-dire le quart de vos ressources, c'est ça qui est raisonnable. Essayez de trouver un logement à 250 euros dans les 28 plus grandes agglomérations françaises sur les 30 que nous avons étudiées, on parle même pas de la région parisienne, on trouve pas de logement à 250 euros pour un célibataire ou à 300-400 pour un couple, ça n'existe plus, c'est quelque chose qui a disparu, les seuls qui restent ce sont des gens qui sont là depuis 15 ou 20 ans et ils sont pas prêts d'en sortir.
C'est un jour idéal pour sécher le linge, là. Voilà, là, dis donc, je suis au fond du camping. Et il y a quoi, un enclos vert?
Ouais.
Là, on a tout fait. C'est mon mari qui a fait le portillon avec des palettes.
Des fleurs. La verdure un petit peu plus gaie, quoi. Que de voir les emplacements un peu trop sales. Ça change un peu.
Ouais.
Et ben là, il y a que mon mari et moi. Et donc, là, c'est les caravanes à mes enfants. Voilà. Et...
Tu habites là aussi?
Ah non, j'ai ma fille qui est en université à Rennes. Et de temps en temps, elle vient quand elle a des jours, une semaine de congé. Mmh. Et puis autrement, j'ai une de mes filles secrétaire pour les personnes âgées.
Qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Il travaille?
Il est artisan en électricité.
D'accord. Et vous?
Et moi, je travaille donc en campagne depuis 2000. Et je travaille pour une autre entreprise de nettoyage.
Vous travaillez pour ce camping-là?
Ah oui, depuis, ça va faire 6 ans.
Vous appelez comment?
votre prénom ?
Michel.
Michel, d'accord.
Voilà, c'est Michel. C'est Michel au camping du pont de, du Rupé, à, toujours à 5 km de Toulouse. Ce camping, nous sommes depuis hier. Et on va se balader avec Michel. On va faire connaissance avec Michel, qui a un regard, vous allez voir pourquoi, très compétent sur ce camping et ce dont on vient de parler. Le porte-parole de la Fondation Abbé Pierre, vous allez voir.
On était du département de l'Isère, on s'est venu s'installer dans Toulouse pour des raisons de travail là-bas, parce que bon, il fallait faire plus de 100 km pour aller travailler entre Chambéry, Aix-les-Bains, tout ça. Et donc, on a préféré venir à Toulouse s'installer. En nettoyage, il y a énormément de travail. Hein. Souvent, ça m'arrive qu'on aille faire des remises en état, plus de 50 km d'ici. C'est-à-dire les remises en état, c'est des constructions de maisons qui viennent d'être construites. Et les clients, on donne les clés aux clients quand tout est nettoyé. C'est-à-dire d'enlever tous les gravats, passer les machines, comme ça les gens ils emménagent avec leur meuble tranquille. Nous, ce qu'on voudrait trouver, ce serait une ferme isolée. Habiter en HLM, c'est des... Moi, pour nous, c'est des cages à poules parce qu'on en étant jeune marié, ça va faire 33 ans qu'on est marié, donc on a habité en HLM, mais pour nous, c'est des cages à poules. Hein.
Ça,
depuis chez vous campé, j'en ai eu de toutes les couleurs. De tout. Je vais écrire un livre, je crois que je serais peut-être milliardaire. Hein. Oh oui. Ça fait les besoins dans les douches, ça vide des seaux hygiéniques dans les bacs à linge. Oui, il y a eu des problèmes quand même au camping. Il y a eu des vols. Hein. Bon, maintenant, ça s'est calmé. Apparemment, ça s'est calmé. Mais oui, il y a eu pas mal de vols. Des gens qui partaient seulement en ville, ils rentraient, on volait les télés, on cassait les vitres. C'était... Déjà, rien que dans les sanitaires, on prend les lampes. Alors, on enlève le cache, et puis on prend la lampe et on remet le cache.
Mais là, vous arrivez à avoir un peu votre intimité, non ?
Ah bah oui, vous voyez, moi, c'est le plus grand emplacement qu'on a. Le matin, avant de partir, je fais mon travail, mon camping. Je repars à l'extérieur toute la journée. Je reviens le soir, je reviens faire le camping, parce qu'on le fait deux fois par jour. Et puis voilà. Alors ici, moi, je ne fréquente pas trop les gens. C'est bonjour, bonsoir, moi.
Pas plus, quoi. Ouais.
Voilà. Même pas. On me dit des fois, Michel, tu viens boire un café avec moi ? Non. Non. Parce que la plupart des femmes ici, bon, vous font rentrer une fois, deux fois, puis après, bon, ben, ça va dire sur quelque chose sur toi, et ils vont le répéter à droite, à gauche. Alors que là, bonjour, bonsoir, tout va bien, il y a un problème, c'est tout. Et après, je rentre chez moi. On est plutôt indépendants. Mon mari, c'est pareil. Hein. Il ne sort jamais, à part la chasse. Il chasse le renard.
Ça chauffe bien.
Oui, moi j'ai le pétrole dans mon auvent et puis j'ai un petit chauffage électrique dans ma caravane impeccable, un bain d'huile.
Et ces murs-là, ils sont assez fins. C'est quoi ? C'est de la tôle ? Même pas.
Là, c'est tout isolé. Nous, on l'a isolé à l'intérieur et on l'a rhabillé en frisette.
Ouais.
La frisette, c'est des ces genres de planches de bois qui sont pas plus larges que ça.
Ça vous coûte combien tout ça par mois ? Parce que vous avez quand même un grand espace.
Là, je paye 300 euros de loyer. Et puis, souvent, l'électricité que je consomme, ça me donne une moyenne de 400 à 450 euros par mois.
Et vos revenus, à peu près, sans indiscrétion ?
Moi, au camping, je touche un salaire minimum de 500 à 600 euros, suivant les horaires que je fais. Et puis, avec mon autre entreprise, j'en fais 500 aussi. Donc, ça me fait presque 1000 euros par mois. Et donc, mon mari, bon, suivant les chantiers qu'il a, bon, il achète le matériel. L'artisan a son compte, oui. Donc, il a les charges de son côté. Et puis, bon, le peu de bénéfices, eh ben, on essaye d'en mettre un peu de côté. Ou alors, j'aide souvent ma fille. Je donne presque 200 euros par mois à ma fille que j'envoie à Rennes.
Ça sent diablement bon. C'est vous qui cuisinez ?
Non, j'ai mis du calyptus sur le poêle à pétrole, le chauffage. C'est pour les enlever les. Vous savez, c'est des odeurs de pour désinfecter les caravanes, tout ça. Les gens connaissent pas ça.
Non. Vous êtes au bout du camping, donc derrière il y a quoi ? C'est
oui,
des champs.
On a le champ juste derrière.
Ouais. En plus. 8 ans, je croyais que les campings, c'était pour des périodes temporaires. Vous, c'est quasiment une résidence.
Ah, ben, il y a beaucoup de gens qui sont là pour des raisons de travail. Puis, il y en a d'autres qui vivent à l'année, comme la plupart qui sont dans les monts Milhomme. Les gens respirent quand même mieux, je pense. Hein. Ouais. À part certains, bon, bah, c'est l'alcool, c'est le tabac, c'est détruit la santé, comme la plupart. Hein. Il y en a beaucoup pas mal ici dans les campings. Mais les gens, je les vois parce que je travaille dans les sanitaires, je les croise. Et c'est des gens qui pourraient travailler, qui sont toujours en chômage, qui touchent le RMI, et qui ne cherchent pas de volonté à travailler. Alors qu'ils peuvent travailler. Mais pourtant, ils ont fait des cures. Hein. Ouais. Et ils vont rester un mois à la sortie de la cure. Puis hop, ils rechutent. Et puis allez, hop. Et voilà. Caravane, bon, moi, je trouve qu'une caravane, c'est quand même mieux que d'habiter... Les gens qui habitent à la rue, par exemple. Vous voyez, les gens qui habitent à la rue, sur la rue de Toulouse, souvent que j'ai des chantiers en plein centre, on voit des gens qui sont à la rue, ils auraient simplement une petite caravane, même d'une place, un lit au chaud. Et alors donc, il y en a eu quand même qui sont venus rien que pour ça, je pense. Qu'ils n'avaient rien d'autre, qu'ils n'avaient pas de logement, rien. Et je pense qu'ils sont venus s'installer. Après, bon, ben voilà, la plupart, c'est ça. Hein.
C'est le chat qui gratte, hein. Ça y est, c'est la tournée ménage.
Ben oui, je suis obligée.
Même le dimanche.
Ah, ben, il n'y a jamais de jour férié chez nous. Ouais. Nous, même les jours fériés, que ce soit n'importe quand.
Petit coup de balai dans les douches.
Moi, je prends jamais de vacances. Chez nous, il n'y a pas de jour férié.
Allez, allez, à tout à l'heure.
Bien sûr, il y a ce qu'on dit et qu'on vit pas, et il y a ce qu'on vit et qu'on dit pas. Et on a sa fierté et on est tous ainsi fait que ce que l'on subit, on se fait croire à soi-même qu'on l'a choisi. Et on est comme ça. Si bien que, mais c'est de proche en proche qu'on comprend et qu'on sent ce que vivent et comment vivent ceux qui sont dans ces campings, de plus en plus nombreux, on l'a dit, et notamment dans celui-ci à Pont-du-Rupet, donc à 5 km de Toulouse. On va retrouver le gérant, Monsieur Lagarde, Christian Lagarde, qui nous a aimablement reçus, et ça va nous faire une première petite conclusion.
Camping du Rupet, bonjour. La semaine ?
Ouais, ok.
Bon, j'ai à peu près fini ma petite tournée. J'ai vu des profils quand même assez différents, hein, mais dans vos clients ou locataires, je ne sais pas comment il faudrait les appeler.
Là, on doit avoir l'équivalent de 250 personnes. Eh bien, dans 250 personnes qui vivent, on va dire, dans le camping, eh bien, il y a inévitablement des gens très bien, des gens qui ont des moyennes, des gens qui en ont moins, des gens qui sont malades, des gens qui... Il y a de tout. Certains aussi parce qu'il y en a qui vivent mal le fait d'être en caravane, parce qu'ils n'ont pas accès au logement. Quand on le choisit, ça pose aucun problème. Certains sont bien ici, vous avez dû en voir, mais d'autres qui ont envie, vous croyez qu'ils vont trouver un appartement facilement, ces gens-là? Moi, je dis non. Et la preuve, elle est là. Voilà. Alors, le problème, c'est que ce qui m'embête le plus, c'est que si c'est une étape, grand bien, on aura participé à cette chaîne qui est pas facile, mais j'ai bien peur que ces situations durent et que les solutions n'apparaissent pas régulièrement. Campy le Rupé, bonjour. Ouais, ok. Cette notion de faille, elle est bien présente. Je pense que j'aurai 192 mobilhommes.
avec un tarif fixe mensuel, il serait loué dans le mois. C'est clair. Non, non, vous pouvez venir. La semaine ?
Surtout oui. Si c'est pour faire des chèques, vous êtes le bienvenu.
Ah oui,
hein.
Moi, un chèque, là. Monsieur ?
Cigarette ?
Ah non.
Non.
Non, cigarette. Alors, monsieur Bruno, t'es là depuis combien de temps, toi ?
Ça fait long, hein.
C'est la fiche numéro 2, ça fait ouais. Le 3 septembre. Ouais. Tu fais quel job, toi ?
Moi, je suis à Saint-Même.
Au train, enfin, au fret, non ?
Oui.
Et toi, t'as essayé de venir en caravane, je sais plus pourquoi, déjà, tu m'avais dit.
Bah, disons que j'ai laissé l'appartement parce que j'étais avec quelqu'un, et puis j'ai laissé l'appartement.
C'est pas sûr, ça l'a pas fait.
J'ai laissé l'appartement, et puis j'ai voulu m'éloigner un peu.
T'as des projets de relogement ?
Oui.
L'électricité, bah, par exemple, lui, en électricité, il va faire par semaine, alors que pour les touristes, on prend 3 euros par jour. Lui, il fait sa semaine avec. Voilà, c'est une gestion, enfin, en fait,
mais
là.
Disons que moi, je travaille de nuit. Et puis, alors, déjà que la nuit, j'ai pas d'électricité.
Voilà. Alors, 62,36 voilà. Pour la semaine. Une carte.
Merci.
Voilà, l'ami.
I won't pay for next week.
Yes. Et voilà, monsieur.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Je passe pour une caravane, pour un chien qui n'en démord pas. Le labyrinthe conduit l'homme mobile à des étreintes, loin du réconfort. Je passe de sas en sas, et mes visites s'espacent. Les ombres se chinent à rechercher des nuances. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire, de l'étuve au blizzard, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser, des coups de latte.
Voilà, alors une autre conclusion pour ce reportage. Retour avec Patrick Doutreling, donc de la Fondation Abbé Pierre, qui, je rappelle encore une fois, publie aujourd'hui son 11e rapport sur le mal-logement, sur quelles pourraient être les solutions et les perspectives. Alors, qu'est-ce que vous faites comme proposition en tant que Fondation Abbé Pierre ?
Je pense que la première, c'est bien sûr, c'est produire du logement et produire du logement accessible. Qu'il soit public ou privé, peu nous importe, il n'y a pas de dogme là-dessus. Produisons du logement, mais du logement tel que la demande se manifeste. Le deuxième, je pense que il y a beaucoup de produits fiscaux qui sont mis sur le logement en France. On ne devrait pas avoir de produits fiscaux sans contrepartie sociale. On ne peut pas faire des cadeaux fiscaux à des investisseurs. Moi, j'ai rien contre eux, mais à la condition qu'effectivement, en contrepartie de cet avantage fiscal, qui est nos impôts, ils sortent des logements qui concernent la majorité des Français, ce qui est pas le cas. Il faut que les aides au logement suivent l'inflation des loyers. Le gouvernement est incapable pour le moment de freiner l'augmentation des loyers. Eh bien, au moins qu'on en tire les conséquences, que les plus modestes puissent être aidés à payer ce loyer. Vous verrez, quand ça coûtera très très cher à l'État, il trouvera bien des solutions pour diminuer le montant des loyers. Je pense qu'il faut peut-être passer à notre dernière proposition, c'est faire du droit au logement un droit au logement opposable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit d'ici 5 ans, les gens qui n'ont pas de logement ou qui vivent dans un logement insalubre, il faut qu'ils puissent se retourner vers une autorité, on pense aux agglomérations, en disant « j'ai un droit, il est écrit dans la Constitution, j'ai un droit au logement, qu'est-ce que vous faites ?» Et là, quand on aura imposé aux collectivités locales de prendre la connaissance des besoins, de construire, on pourra avoir à ce moment-là, parce qu'on aura un droit justiciable, dire ben voilà, on prend la mesure des responsabilités, on prend la mesure de nos engagements et on fait en sorte que tous les parties de la société, du plus faible au plus fort, ils aient une place dans notre société.
S'il n'y avait pas les voisins, la vie serait tranquille, on n'entendrait plus rien. Ah, comme on serait bien s'il n'y avait pas les voisins. Quelle paix à domicile, seulement il y a les voisins.
J'ai mon voisin du dessus qui adore bricoler. Des coups de marteau me donnent envie de l'étrangler. Pan, pan, toc, toc, pan, pan, toc, toc.
Ah, comme on serait bien s'il n'y avait pas les voisins. La vie serait tranquille, on n'entendrait plus rien. Ah, comme on serait bien s'il n'y avait pas les voisins. Seulement y a les voisins.
J'ai mon voisin de gauche qui joue de la batterie. Avec le bricoleur, ça fait une sacrée symphonie. Pan, pan, boum, boum, toc, toc, boum, boum.
Ah, comme on serait bien s'il n'y avait pas les voisins. La vie serait tranquille, on n'entendrait plus rien.
J'ai mes voisins de droite qui sont jeunes mariés et se joignent aux concerts qui me rendent doucement cinglé. Pan, pan, boum, boum, toc, toc, boum, boum.
Ah, comme on serait bien s'il n'y avait pas les voisins.
Pour mon amour,
la vie serait tranquille, on n'entendrait plus rien.
Et mon voisin du dessous a un chien qui aboie. Dès qu'il entend du bruit, ça le rend fou tout comme moi. Pan, pan, boum, boum. Wouh, wouh, toc, toc, boum, boum. Wouh, wouh.
Ah, comme on serait bien s'il n'y avait pas les voisins.
Elle est arrêtée, la cire là-haut. On s'en sent plus dans cette
la vie serait bien. On n'entendrait plus.
Oh, c'est l'heure des informations, l'air. Eh bien, bien, c'est parti.
Ah bah oui, bien sûr, c'était Henri Salvador. Merci à tous. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. Merci à Christelle Chabot de l'Humanité. Merci à Christian Lagarde pour son accueil. Merci à Michel, à Lucille. Merci à Patrick Doutreling, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Merci aux habitants du camping de Ruppé. À lire de France Poulain, l'esprit du camping, aux éditions Cheminement. Et puis un petit ouvrage formidable qui vient de paraître et qui n'a rien à voir, d'Éric Hazan, LQR. La propagande au quotidien aux éditions Raison d'agir. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission La Basse, j'y suis. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Pascariello et Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.